L'agneau est digne de recevoir de notre part louange, honneur, gloire, majesté, puissance, et ce pour l'éternité. Nous voulons lui dire merci pour ce temps passé dans sa présence, ce temps de louange et d'adoration, temps qui nous a permis de nous approcher de lui pour l'encenser avec notre louange, avec notre adoration, pour lui exprimer notre reconnaissance pour mille et une choses qui ne cessent d'accomplir dans notre vie. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant nous préparer à écouter sa parole. Nous voulons que le Seigneur nous parle ce matin. Nous voulons qu'il puisse nous faire du bien par sa présence au travers de sa parole. Nous voulons que cette parole soit cette semence incorruptible, cette semence vivante et vivifiante, qui va tomber dans des cœurs fertiles, des cœurs préparés, bien disposés, pour finir par germer et produire du fruit pour sa gloire. Seigneur, merci pour, une fois de plus, ce privilège de pouvoir te tendre une oreille attentive, Seigneur, et recevoir de toi ta parole. Nous savons, Dieu, combien cette parole est importante, combien elle est indispensable pour chacun de nous, car c'est par et au travers de cette parole que tu nous communiques ta vie, c'est par et au travers de cette parole que tu, Seigneur, tu renouvelles notre intelligence, et par conséquent tu nous transformes et métamorphoses à ton image. Apprends-nous à aimer, à affectionner ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à marcher non pas selon nos instincts charnels, selon les circonstances, mais plutôt à marcher selon ta parole. C'est pourquoi je prie pour que, Seigneur, elle puisse trouver auprès de chacun de nous, Seigneur, une écoute, une bonne écoute, et ainsi être reçue dans nos cœurs. Bénis ton serviteur, pose ta main sur lui, Seigneur, aide-le à proclamer ta parole avec pertinence, avec clarté de langage, mais aussi avec, Seigneur, la force qui vient de toi. Merci de déposer cette parole dans chacun de nous. Sois loué, sois béni. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour tout. Un temps pour louer, pour adorer le Seigneur, mais aussi un temps pour écouter sa parole. Ce matin, je voudrais parler de la croissance spirituelle qui conduit donc à la maturité. Maturité indispensable pour une vie de victoire, pour une vie de triomphe, pour une vie qui entre de plein pied dans les bénédictions auxquelles le Seigneur nous destine, des bénédictions qui sont là devant nous. Alléluia. La croissance spirituelle. Et pour cela, nous allons lire dans Philippiens chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Et pour ceux qui ont une mémoire éléphantesque, ils se souviendront que le verset 10 de ce chapitre 3 des Philippiens nous a accompagnés tout au long de notre séminaire, dont le thème était « Au-delà ». Verset 10. « Mon but est de le connaître, lui, donc Jésus-Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, et tendant vers ce qui est en avant, je cours. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. La croissance spirituelle, le fait de grandir jour après jour en Christ, en lui ressemblant en toutes choses, voilà donc la pensée sur laquelle j'aimerais m'attarder aujourd'hui et voir avec vous comment pourrions-nous grandir et croître. Car par rapport à cette pensée, mes amis, Nous n'avons pas de choix si ce n'est que de la considérer comme étant une priorité pour chacun de nous. Celui qui n'avance pas avec le Seigneur peut croire qu'il est en train de faire du statu quo, mais en réalité, il recule. Celui qui ne progresse pas, eh bien, regresse. Gloire à Dieu. Donc, nous devons nous porter vers l'avant et courir après donc cette maturité, cette croissance spirituelle. Amen. La croissance, nous le savons tous, la croissance fait partie de la vie, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel, c'est un principe vital. Prenez une graine qu'on jette dans la terre, c'est une semence qui contient de la vie en elle. On la jette dans la terre, non pas pour le plaisir de la jeter. Voyez-vous, cette semence, dans certaines conditions, alors qu'elle est là sous la terre, alors qu'elle reçoit tous les éléments naturels dont elle a besoin, eh bien, va finir par germer, par devenir une plante qui croît, une plante qui grandit, et puis ensuite, le feuillage va apparaître, et puis, les fleurs vont apparaître, et puis cette plante va bourgeonner, et puis enfin, le fruit va apparaître. Alléluia. C'est donc une croissance normale. C'est le but pour lequel une semence existe, et une semence est jetée dans la terre. Regardez un enfant qui naît. Il ne naît pas pour naître. Quand il sort du sein de sa mère, déjà avant de sortir du sein maternel, cet enfant passe par différents stades, à commencer par le stade embryonnaire, où il est déjà une vie, où il est déjà un être, alléluia. Et puis, les membres vont commencer à pousser, et au terme de son séjour dans le sein maternel, à peu près 9 mois, cet enfant va sortir. Et en sortant, ben, il va avoir besoin des éléments nutritifs dans le lait maternel pour grandir, pour croître. Car un enfant naît pour grandir et atteindre l'âge adulte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il naît avec les mains, avec les bras, avec les jambes, avec toutes sortes de membres, avec une tête, des yeux, pour pouvoir les utiliser un jour à bon escient. Mais c'est en grandissant, c'est en croissant, qu'alors il comprendra l'utilité des mains, l'utilité des jambes, il comprendra l'utilité du cœur, etc. Il en est de même, mes amis, pour tout enfant de Dieu, pour tout celui qui rencontre Jésus, eh bien, et qui passe par cette expérience que la Bible appelle la nouvelle naissance, ou la naissance d'en haut. Lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on est de nouveau, mes amis, eh bien, on est appelé à grandir, à croître, et non pas à rester au stade de bébé spirituel. Dans le monde physique, eh bien, lorsque la croissance est freinée, pour cause de malnutrition, par exemple, pour cause de maladie, pour cause, eh bien, d'un défaut congénital, eh bien, cela peut avoir des conséquences tragiques. Voyez-vous? Il en est de même sur le plan spirituel. Lorsque nous ne croissons pas, ou nous ne cherchons pas à croître, mes amis, nous courons toutes sortes de dangers que je vais épingler dans la suite de mon sermon. Voyez-vous, c'est plus tragique de voir qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes en Christ ne se soucient pas de leur croissance pour atteindre la maturité à laquelle le Seigneur nous appelle tous. Des gens qui négligent de grandir et de croître spirituellement, de mûrir spirituellement, et qui se contentent de cet état de bébé spirituel, de bébé dont il faut constamment prendre soin, de bébé qui demande davantage de l'attention. En agissant ainsi, c'est-à-dire en négligeant, ce désir, cette volonté de vouloir devenir mature, en refusant de grandir par ignorance ou par choix irrationnel, eh bien, beaucoup d'hommes et de femmes finissent par devenir des proies faciles pour des prédateurs spirituels qui pillulent et sévissent de plus en plus dans notre monde aujourd'hui. Si les sectes prospèrent aujourd'hui, si toutes sortes de prophètes et de faux prophètes peuvent avoir une certaine audience, c'est tout simplement parce que, mes amis, la maturité spirituelle, la croissance spirituelle n'est plus la priorité pour beaucoup de nos contemporains. Beaucoup se contentent encore, 10 ans dans le Seigneur, de prendre toujours le lait spirituel de la parole, alors qu'il y a longtemps qu'ils auraient dû déjà être au niveau de la parole, de la nourriture solide. À cause de cette immaturité spirituelle, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants sont manipulés par tous ces vendeurs d'illusions spirituelles, par tous ces charlatans qui parcourent les rues, qui vont de ville en ville pour manipuler les gens, pour les tromper, voyez-vous. Les gens tombent facilement dans ces pièges parce qu'ils ne sont pas suffisamment matures. Ils ne sont pas suffisamment mûrs pour discerner ce qui est vrai, ce qui vient de Dieu, de ce qui vient du diable, de ce qui est du mensonge. Le charlatanisme spirituel, la manipulation prophétique à laquelle nous assistons aujourd'hui, voyez-vous, l'endoctrinement, l'embrigadement mental prospère là où règne l'immaturité spirituelle. Là où les gens ne croissent pas, non pas parce qu'ils auront choisi de ne pas croître, parce que malheureusement, ils sont dans un contexte où ils ne sont pas nourris suffisamment, comme un enfant qui naîtrait et qui tout de suite serait, c'est vrai, c'est-à-dire privé du lait maternel. Cet enfant, s'il n'est pas nourri, si cet enfant ne bénéficie pas de soins indispensables, eh bien, cet enfant finira par mourir. L'immaturité spirituelle, c'est quelque chose que nous devons combattre. L'Église est appelée à être un lieu où les gens viennent pour recevoir Jésus, mais aussi un lieu où ils sont appelés à grandir, afin qu'un jour, ils puissent aussi produire du fruit, beaucoup de fruits, et qu'au travers de ce fruit, le nom du Seigneur soit glorifié. Imaginez une église qui serait remplie que de bébés. Quelle tragédie pour le pasteur, qui devrait prendre soin de 100, 200, 300 personnes, qui sont des bébés, qu'il faudra langer, voyez-vous, qu'il faudra laver, qu'il faudra habiller, qu'il faudra prendre à chaque fois, aller les mettre dans leur petit berceau. Un tel pasteur ne ferait pas long feu. Voyez? Mes amis, c'est dans la volonté de Dieu que nous croissions à tous égards, alléluia, que nous soyons des enfants spirituels pour être à l'abri de toutes sortes de manipulations de la parole de Dieu, toutes sortes de manipulations de la part de faux prophètes, de la part de faux prédicateurs, pour que nous ne soyons pas des enfants flottants et ballottés par toutes sortes de doctrines hérétiques. Le marchand d'illusions, le vendeur de foi ou de prophétie prospère parce qu'ils ont une audience, parce qu'ils ont des gens qui le suivent. Pourquoi ces gens le suivent? Dans la plupart des cas, parce qu'ils sont incapables de savoir si cet homme qui prêche est vraiment dans la vérité. Et comment savoir? Parce qu'eux-mêmes n'ont jamais été confrontés à la vérité. Mes amis, nous devons faire très attention. Le Seigneur nous a sauvés à un grand prix. Notre âme n'a pas de prix. Alléluia. Nous devons tout faire pour qu'elle reste constamment, non pas entre les mains d'un pasteur, entre les mains d'un bishop ou d'un apôtre, mais plutôt entre les mains du Seigneur, notre Sauveur. Lui, le divin berger. Nous devons croître, car c'est dans la volonté de Dieu que nous ne soyons pas des bébés spirituels, des bébés chrétiens ballottés et flottants, emportés à tout vent de doctrine. Mais à contrario, le Seigneur voudrait que nous puissions grandir, et ce, à tous égards, pour atteindre la maturité dont nous avons besoin pour mener une vie de victoire, une vie merveilleuse qui le glorifie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Autrement, nous risquons de rester des bébés spirituels qui manqueront de discernement et qui seront de plus en plus vulnérables aux stratagèmes des imposteurs de tous bords et à leurs faux enseignements et à leurs fausses doctrines. Où que j'aille, croyez-moi, mes amis, je rencontre le même besoin d'être enseigné. Où que j'aille, je peux voir comment, mes amis, il y a eu à un certain moment, du moins dans l'église ici au Congo, une faille dans la préparation de ces hommes et de ces femmes appelés à servir le Seigneur. Beaucoup n'ont pas été formés, beaucoup n'ont pas été préparés, beaucoup sont des autodidactes. En ce qui concerne Dieu, l'autodidaxie est à bannir. Nous avons besoin d'un tuteur, d'un mentor. Nous avons besoin d'un cadre qui nous prenne en charge, qui nous donne la mamelle spirituelle pour recevoir, eh bien, la nourriture spirituelle qui va nous permettre de grandir. Mais aujourd'hui, eh bien, 2-3 ans après la conversion de quelqu'un, eh bien, il devient tout de suite prophète. Il commence à se livrer en spectacle. Et il draine des foules. Mais les gens qui suivent ces gens, ce sont des gens, mes amis, qui sont en recherche de quelque chose, mais n'ayant pas la maturité suffisante, ils sont incapables de discerner ce qui vient de Dieu, de ce qui est simplement le produit d'une manipulation humaine, d'inspiration satanique. Voyez-vous, c'est ainsi que ces gens prospèrent. Ils remplissent des stades. Et quand vous les attendez, il n'y a rien de consistant. Ils sont là simplement pour saupoudrer les gens avec toutes sortes de mensonges et des promesses qui ne tiennent pas debout. Dieu vous bénira, Dieu vous bénira. Dieu m'a dit, tu vas être élevé. Dieu m'a dit, je te vois partir en voyage, comme si le fait de partir en voyage est la plus grande bénédiction. Les démons sont tout le temps en voyage, hein. Ben oui, puisqu'ils n'étant pas omniprésents, ils doivent donc se déplacer, non? Pour aller attaquer les gens. Mes amis, arrêtons. Notre âme n'a pas de prix. Faisons tout pour être nourris à la véritable source qui n'est tarie point. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a laissé à l'Église cette recommandation qui exprimait sous forme impérative, où il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez dans la grâce, croissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous trouvez des chrétiens qui connaissent beaucoup de choses sur leur pasteur, beaucoup de choses sur leur conducteur spirituel, mais qui ne connaissent absolument rien sur le Sauveur de leurs âmes. Ils connaissent le goût de leur chef spirituel, la couleur qu'il aime mettre, le type de chaussures qu'il aime, voyez-vous. Ils connaissent tout, le nombre d'enfants qu'il a. Voyez, son ethnie et sa tribu. Ça, c'est terrible, hein. Moi, j'ai horreur de ça. On doit savoir, il vient d'où. Voilà. Il vient de chez nous, du Mayombe. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est un cancer que nous devons combattre. Non seulement dans l'Église, mais également dans notre pays et même au-delà. Alléluia. Le tribalisme est un cancer. Lorsqu'il arrive à métastaser une nation, eh bien, cette nation va à sa destruction. Gloire à Dieu. Nous devons combattre cela. Grandir en Christ. Voilà, mes amis, ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Pourquoi devons-nous grandir spirituellement? Eh bien, parce que nous devons grandir spirituellement. Voilà. Nous sommes nés spirituellement pour grandir. Nous sommes sauvés, non pas simplement pour être sauvés. Nous sommes sauvés dans un but. c'est de ressembler à Jésus. C'est d'avoir une vie qui grandit et qui est de plus en plus conforme à l'image du Christ. Gloire à Dieu. La parole de Dieu l'exprime bien dans Romains 8, verset 29. Lorsqu'elle dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà, mes amis, c'est à quoi le Seigneur nous prédestine. Il nous destine avant toute chose que nous puissions lui ressembler en tout. Voyez. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de ressembler au Maître. Ce que nous sommes est appelé, mes amis, à durer éternellement. Ce que nous avons, eh bien, est appelé un jour à disparaître. Voyez-vous? C'est pourquoi l'être vaut plus que le faire aux yeux du Seigneur. Nous devons d'abord être avant de pouvoir faire quelque chose. C'est alors que ce que nous ferons pourra contribuer à la gloire de nos maîtres, de notre maître. Il nous a prédestinés à être semblables, à ressembler en toutes choses à l'image de son Fils. Et comment ressembler à l'image du Christ, mes amis, si vous n'avez pas le modèle devant vous? Oui ou non? Vous ne pouvez pas ressembler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas ressembler à quelqu'un que vous ignorez. Il faut connaître la personne. Il faut avoir le modèle devant soi pour enfin tout faire pour lui ressembler, pour parler comme la personne, pour s'habiller comme la personne, pour se coiffer comme la personne. N'est-ce pas? Donc cette connaissance est indispensable. Nous n'avons pas de choix que de tout faire pour grandir dans la maturité spirituelle, de tout faire pour ressembler au Seigneur, et c'est à tous égards, car le manque de croissance spirituelle, eh bien, maintient les enfants de Dieu dans l'immaturité et dans l'incapacité d'apprécier les bénédictions que Dieu a en réserve pour eux. Quand on est immature, quand on est un bébé spirituel, il est difficile d'apprécier quelque chose de consistant, quelque chose d'extraordinaire. C'est comme un bébé, il est incapable de faire la différence entre un couteau et une cuillère. Pour lui, c'est des objets avec lesquels il peut s'amuser, oui ou non. C'est en grandissant que cet enfant va donc acquérir la maturité qui lui permettra de savoir qu'un couteau est dangereux, que ce n'est pas un jouet, voyez-vous. Donc il faut grandir. Autrement, nous ne pourrons pas apprécier à leur juste valeur les grâces que le Seigneur met à notre disposition, les différentes bénédictions. C'est ainsi que cette immaturité pousse certains à jeter les perles du Seigneur aux cochons, voyez-vous, à donner aux chiens des choses d'une valeur incroyable. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul, concernant la responsabilisation de quelqu'un au niveau de l'Église, eh bien, il dit qu'il ne faut pas que celui qui aspire à la charge d'évêque d'ancien soit un jeune converti. Voyez-vous? Parce que quand on est un jeune converti, ben on confond tout. Quand on est un jeune converti, on n'a pas suffisamment de maturité pour savoir ce qui est bien pour l'Église. La maturité, nous l'acquérons et nous allons le voir au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas une école, une faculté de théologie, une institution biblique où quand vous irez, eh bien, vous en sortirez mature, avec une sagesse céleste. Pas du tout. C'est un processus par lequel nous devons absolument passer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais aussi, cette immaturité constitue un frein à un service efficace envers le Seigneur, envers l'Église et envers le monde. Mes amis, le Seigneur nous a sauvés d'abord et avant tout pour lui et pour lui seul. Comment servir quelqu'un lorsque nous n'avons pas suffisamment de maturité qui nous permette de mieux le connaître, de savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, de comprendre comment il agit, ce que nous pourrions faire qui puisse le satisfaire. Comment être efficace envers le Seigneur dans l'adoration, dans la louange, dans différents services qui sont là au niveau de l'Église, si nous sommes des immatures. Voyez, comment servir l'Église lorsqu'on n'est qu'un bébé spirituel? On a le zèle, certes, mais le zèle ne suffit pas. D'ailleurs, on dit toujours à ceux qui aspirent à la charge pastorale, à prendre la direction d'une église, ou à ceux qui sont à la tête d'un département dans le cadre de l'église, et j'en parle avec certains, il ne faut jamais responsabiliser quelqu'un uniquement sur base de son zèle. Voyez-vous, le zèle ne suffit pas. Et beaucoup de fois, on s'est trompé. On a regardé au zèle, alors que sur le plan de la maturité, la personne était encore bébé. Certes, elle était toujours là, présent, très expressif, sautant, louant le Seigneur, allant évangéliser à gauche, à droite. C'est bien tout cela, mais le zèle à lui seul ne suffit pas. Il y a autre chose. Plus nous grandissons en Christ, plus nous acquérons la capacité de mieux le servir, de mieux marcher avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, mes amis, si nous ne croissons pas, si nous ne grandissons pas en Christ, eh bien, nous risquons de nous exposer à toutes sortes de choses qui pourraient s'avérer destructrices pour notre vie. Nous deviendrons de plus en plus vulnérables. Vulnérables face à tous ces gens qui sévissent dans notre monde aujourd'hui. Il y a de plus en plus de prédicateurs qui proposent le ciel moyennant 10 dollars par jour. C'est terrible, hein? On vend des cartes prophétiques. J'ai parlé à Lumbashi avec une personne et sa fille. Elles m'ont dit, mais pasteur, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un pasteur qui est ici à Lumbashi qui vend de l'eau. Il bénit l'eau et les gens viennent pour acheter cette eau-là afin d'aller la boire pour être purifié, je ne sais pas, pour être guéri. Voyez-vous, mes amis, vous pensez que cette eau-là, lorsqu'elle se retrouve entre les mains d'un aventurier comme celui-là, elle changerait de nature? Ça devient de la magie, hein? Voyez-vous, mes amis. Et pourtant, d'après ce que j'ai entendu à Lumbashi, des gens courent après cet homme. Il doit faire de bonnes affaires. Je ne sais pas si l'État arrive à prélever la TVA sur cette eau-là. Vous voyez, mes amis, ça c'est de l'immaturité. J'ai rencontré quelqu'un il y a de nombreuses années d'ici. Il était malade, très affaibli, et puis il mourra quelque temps plus tard. Je parlais avec cet homme, il m'a dit, pasteur, avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai été baptisé dans le Jourdain. Voilà. Mais c'est bien, vous pensez que avoir été baptisé dans le Jourdain vous rendrait tout de suite mature? L'eau du Jourdain, vous pensez qu'elle est différente de la nôtre ici au Congo? Vous voyez, les gens courent. On a entendu des enseignements du genre où il faut absolument être baptisé dans de l'eau qui coule. Vous avez entendu ça? Moi, j'ai été baptisé à l'époque, il y avait encore la piscine. Vous pensez que ce n'était pas un baptême? Et puis l'eau coule. Si on vous baptise dans le fleuve, l'eau va arriver dans l'océan et puis après l'océan, elle va où? Tout ça parce que les gens sont immatures. Comment croître spirituellement? Voilà la grande question. Eh bien, comme la croissance physique résulte du processus qui consiste à ingérer de la nourriture, à manger, de même la croissance spirituelle résulte du processus qui consiste à ingérer la parole de Dieu. Alléluia. Mes amis, la parole et la parole seule reste notre vraie nourriture. C'est la parole qui nous rend sages à salut. C'est la parole qui nous rendra de plus en plus matures, qui nous modèlera et nous façonnera pour ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. En ingérant la parole de Dieu, en la mangeant régulièrement. D'ailleurs, le Seigneur a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. L'homme intérieur en nous, celui qui est né de nouveau, mes amis, a besoin de nourriture. Et cette nourriture, c'est la vérité de Dieu. C'est la parole de Dieu. Non seulement la recevoir, mais aussi la mettre en pratique. Ingérer la vérité de la parole de Dieu. Croire à la parole de Dieu. Croire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà comment vous et moi, nous pourrions grandir et tendre vers la maturité spirituelle. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de formule magique. Voyez-vous? Et je vous dirais même que le nombre d'années de conversion ne peut pas rendre quelqu'un mature si ce nombre d'années sont mal gérées. C'est ainsi qu'à certains 20 ans près, ils sont toujours des bébés spirituels. D'autres arrivent 5 ans, 10 ans plus tard, eh bien, ils reçoivent même de choses de la part du Seigneur, des responsabilités, mais eux sont toujours au niveau du lait spirituel. Donc, l'âge n'est pas le facteur de maturité. Voyez, nous sommes matures, nous croissons, nous grandissons lorsque nous mangeons la parole de Dieu, lorsque nous l'ingérons, alléluia, lorsque nous croyons à la parole de Dieu, lorsque nous croyons la parole de Dieu, lorsque nous la mettons en pratique. Écoutez ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile de Jean concernant cette parole. Jean, chapitre 6, verset 68, il dit ceci. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh, alléluia. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle, oui ou non? Puisque nous sommes nés spirituellement, nous avons alors besoin d'une nourriture spirituelle. Et Jésus dit et nous dit, aujourd'hui encore, les paroles que je vous ai dites, les paroles que je vous ai laissées dans l'Écriture sainte, son esprit et vie. Gloire au Seigneur. Il n'y a rien qui remplace la parole. Arrêtez de courir après les prophéties. Une vraie prophétie, c'est celle qui reflète la pensée biblique. Et qui pousse quelqu'un, mes amis, à s'approcher davantage du Seigneur. Un vrai prophète, c'est celui qui travaille à la maturation de ses disciples. Et non pas celui qui entretient un lien de dépendance. Et qui maintient le gens dans un état de bébé spirituel pour bien les manipuler. Vous voyez, c'est de l'aliénation mentale. Ces gens aliènent le peuple. Car Dieu veut que nous grandissions, que nous atteignions un état qui nous permette de faire des choix sans qu'il faille absolument appeler un prophète, un pasteur, un prédicateur, un intercesseur, que sais-je. Au début, ça va. Mais nous, on ne va pas constamment être nourris par les autres. À chaque fois qu'on doit prendre une décision, on doit chercher une prophétesse. Et croyez-moi, il y en a plein à Kinshasa. Hein. Vous pouvez en trouver à tous les goûts. Et selon vos aspirations. Cette parole que je vous ai dite, mes paroles que je vous donne sont esprit et vie. Alléluia. Mes amis, la Bible et la Bible seule a cette capacité, cette vertu de nous transformer à l'image du Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu quand je me suis, au début de ma conversion, j'avais une soif incroyable. Et je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je suis devenu chrétien. J'étais déjà actif dans la vie, je travaillais, et je me souviens, je donnais ma vie au Seigneur, Et je commençais à, c'est ici, dans cette église où je suis né, spirituellement, à venir manger la parole de Dieu. J'étais là, je buvais tout ce que le pasteur enseignait. Et je peux vous dire, jusqu'aujourd'hui, j'ai des notes des prédications du pasteur Vernon de 1985. Je garde tout. J'estimais que c'était précieux. J'ai noté tout. Alléluia. Et puis j'allais partager cela aux autres. Au point où, une année après ma conversion, les gens me demandaient si j'avais été dans une école biblique. J'aimais tellement Dieu. J'étais insatiable par un seul culte. Il m'en fallait deux. Quand on en a institué deux, quand on a commencé à avoir deux cultes, je faisais le deux. Et j'étais toujours devant, pour ceux qui m'ont connu autrefois, en face du pasteur pour bien manger. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça, je peux vous le dire. Quand je suis parti en Europe, eh ben, ça m'a beaucoup aidé. Voyez, quelquefois nous maternons trop les chrétiens. Tant qu'ils sont avec nous, eh ben, ils sont bien protégés. Nous sommes comme leurs garde-fous. Oui ou non? Si je vais là-bas, il y a beaucoup de sœurs, ils vont me voir, il y a beaucoup de frères, voyez. Donc les gens n'osent pas pécher, parce que où que tu ailles, il y a toujours un frère de la borne qui vous voit. Oui ou non? Surtout nous qui passons à la télévision, où que tu sois, etc. Mais j'ai connu des gens de cette église, dans notre église ici, de jeunes gens qui sont partis aux États-Unis, il y en a qui ne sont nulle part aujourd'hui. Tant que nous veillons sur eux au niveau de la jeunesse, nous étions là à les encadrer, à les suivre, etc. J'ai compris ça plus tard, nous les avions trop maternés. Vous voyez, quand ils sont partis aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, beaucoup ont fini par mordre la poussière. Il y en a qui ont divorcé, qui se sont retrouvés dans une vie mondaine, mes amis, terrible. Qu'est-ce qui a fait la différence? Vous voyez, nous devons manger. Alors je disais cela, pourquoi j'ai pris mon exemple? Au début de ma conversion, j'étais conscient de certains de mes défauts. J'avais certains liens avec le monde. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je dois abandonner ceci, je dois abandonner cela. Et je peux vous assurer, je me suis retrouvé, moi-même, surpris en disant, oh, ça fait 2 mois que je ne fais plus ceci. Ça fait 2-3 mois que je ne fais plus cela. Vous voyez, ça c'était la conséquence de la parole dans ma vie. Le Seigneur libère. C'est ce qu'il ajoute dans Jean 8, 31-32. Lorsqu'il s'adresse aux Juifs qui avaient cru en lui rapidement, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Eh bien, j'ai été affranchi de pas mal de choses parce que je mangeais régulièrement la parole de Dieu. J'avais toujours ma Bible où que j'allais. C'est ainsi que certains de mes anciens collègues, eh bien, m'avaient surnommé, me lançaient des colibés. Ah, les curés là. Ah, lui, il parle toujours de sa Bible, de Jésus. Oh, le prêtre est là. Le pasteur est là. On m'appelait déjà ça bien avant. J'avais toujours ma Bible, mes amis. Je soulignais. Et j'ai toujours ça. Vous voyez, ma Bible ici est usée. La Bible n'est pas appelée à être une pièce de musée. Alléluia. Vous devez tourner les pages, elles se déchirent. Voilà, ça va dans tous les sens. Je colle même certaines pages. Elles sont déchirées à force d'utiliser ça. Parce que je mange. Je passe du temps avec ça. Évidemment, j'ai difficile à me séparer de cette Bible parce qu'il y a beaucoup de notes et beaucoup d'annotations que moi-même j'ai ajoutées. Voyez? La parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce ne sont pas les paroles des prophètes qui vous affranchiront. Ce ne sont pas les paroles de tel ou tel autre bishop qui vous rendront libre. C'est la parole du Christ, alléluia. C'est cette parole qui vous mettra à l'abri du mensonge, de la tromperie des hommes. C'est à partir de cette parole que vous allez discerner si votre église est dans la vérité ou pas. Si votre église exalte un homme ou Jésus.
si les gens viennent pour élever le conducteur, le mettre sur un piédestal, ou s'ils viennent pour mettre Jésus sur son trône. C'est la parole de Dieu. Nous devons la prêcher. Et je vous dirai aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin d'entendre cette parole. On n'a plus besoin des conventions à gauche, à droite, où on raconte n'importe quoi, pour autant que ces genres de conventions soient des lieux où on enseigne la parole. Mais si c'est simplement pour se faire du bien, jouer de la musique, et puis voir quelqu'un monter en chair, se livrer en spectacle, eh bien, se comporter comme un comédien, ça sert à rien. Ça sert. Vous passez votre temps pour rien. C'est la Bible, la parole de Dieu, la parole du Christ qui va vous rendre mature. Vous ne pouvez pas grandir autrement qu'en demeurant dans la parole. Si ma parole demeure en vous, eh bien, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, vous, nous ne pouvons pas prospérer, fleurir, bourgeonner et porter du fruit en dehors de la parole, en dehors de la présence du Seigneur. C'est ce qui est arrivé à la branche d'Aaron. Vous vous rappelez, à un certain moment, il y avait eu des contestations, pourquoi seulement Aaron comme sacrificateur? Et le Seigneur a dit, écoutez Moïse, fais-moi 12 bâtons, n'est-ce pas? Un bâton pour chaque tribu. Il les a mis là. Où? Dans le lieu très saint. Là où il y avait l'arche, n'est-ce pas? Et c'est là que le bâton a fleuri. C'est là que le bâton a bourgeonné. C'est là que le bâton porte du fruit, alléluia. Mes amis, nous ne pouvons pas grandir, devenir matures, si nous n'apprenons pas à manger cette parole jour après jour. Voilà pourquoi ici à la Borne, nous avons un club de lecture de la Bible. Chaque année, nous vous donnons l'occasion d'avoir un programme de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Ceci vous mettra à l'abri de mensonges et de la tromperie des hommes. La Bible, mes amis, ne faillit jamais. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et le résultat, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, vous. Combien de fois nous avons attiré l'attention de gens sur le verset tant d'eux, où le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. En oubliant qu'avant le verset 32, il y a le verset 31, et que le verset 32 est la suite de ce que Jésus dit au verset 31. Que dit-il? Si vous demeurez dans ma... Ah, voilà la condition. Si vous demeurez dans ma parole, alors vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Et la vérité vous rendra libre par rapport au diable, libre par rapport aux mensonges des démons, libre par rapport aux hommes. Le Seigneur nous a rachetés pour la liberté. Alors ne devenez pas esclaves d'un prophète, esclaves d'une prophétesse. Esclave d'un homme, quelle que soit sa grandeur. Nous sommes appelés à être esclaves de Jésus et de Jésus seul. Alléluia. Alors nous devons demeurer dans la parole. C'est alors que nous serons à l'abri de tout cela. Amen. Gloire au Seigneur. Pour terminer, inspirons-nous de l'attitude des gens des bérets, auquel la Bible rend un témoignage extraordinaire en disant que ces gens avaient les meilleurs sentiments que ceux des Thessaloniques et qu'ils avaient reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup d'enthousiasme, et ils examinaient chaque jour, l'Écriture pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Or, aujourd'hui, beaucoup n'ont plus le temps de vérifier ce qu'on les enseigne. Vous êtes seul responsable. Si vous retrouvez un enfer, croyez-moi, vous serez le seul à griller. Vous voyez? Vous ne diriez pas au Seigneur, « Seigneur, ce n'était pas de ma faute. Moi, j'ai déménagé dans ce quartier, je suis tombé sur cet homme-là, qui prétendait être prophète. Et puis il m'a emballé, il m'a embobiné, il m'a amené là où je suis. Le Seigneur vous dira, mais vous êtes le seul responsable. Pendant que vous avez l'occasion de manger, d'ingérer la vraie nourriture, profitez-en au maximum. Donnez à votre cœur, pendant qu'il a encore soif, eh bien, cette nourriture, car il viendra de moments, et on passe souvent par ces genres de crises, où notre cœur, eh bien, sera comme fermé à la parole de Dieu. Ou pour écouter la parole, pour méditer la parole, il faudra nous faire presque violence. Mais pendant que vous avez encore cette faim, exploitez-la au maximum. Donnez au Seigneur de vous parler, et l'occasion de vous parler, de vous nourrir. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Et je voudrais que chacun de nous réalise que la maturité ne vient pas par hasard, mais c'est tout un processus qui vient lorsque nous ingérons constamment la parole de Dieu, lorsque nous la mettons en pratique, lorsque nous demeurons dans la parole. Alors cette parole va nous rendre de plus en plus matures, de plus en plus semblables à Christ. Vous voyez ? Donc, donnons-nous tant d'occasions à partir d'aujourd'hui. Imposez-vous une discipline de lire la parole de Dieu chaque jour. Pas simplement pour lire, parce que vous avez un calendrier. Quelquefois, ça, c'est le piège. Parce qu'on vous a donné un calendrier de lire la Bible en une année. Alors, pour avoir une conscience tranquille, vous vous lancez dans une course à la lecture. Ah, aujourd'hui, j'ai lu trois chapitres, gloire à Dieu. Mais vous avez lu trois chapitres, vous avez gagné quoi? Voilà. Et c'est simplement pour arriver à la fin de l'année, quand on pose la question, qui a lu la Bible entièrement? Moi! Mais qu'est-ce que vous avez gagné? Il faut lire de manière intelligente, de manière méditative. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Merci de nous aider, Seigneur, à aspirer, après cette maturité spirituelle dont nous avons besoin, à grandir, à croître en toi, Seigneur, en ingérant, en mangeant régulièrement ta parole, car c'est la seule manière de demeurer en toi, ainsi de grandir et de croître à tous égards. Suscite en nous, Seigneur, la soif et la faim de ta parole, que nous apprenions à la lire, à la méditer, à l'étudier, Seigneur, et à la mettre en pratique. Merci pour tout. Nous voulons également, Seigneur, te prier de poser ta main sur ce moment consacré aux offrandes. Là aussi, c'est une occasion pour nous de mettre en parole ta pratique, car en te donnant ce que nous avons préparé, nos dîmes, nos offrandes, eh bien, nous te manifestons notre reconnaissance, comme la Bible nous les demande, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Eh bien, nous te rendons grâce, nous te manifestons notre reconnaissance pour le travail, pour la responsabilité que nous avons, pour les affaires, pour ceci ou cela, en te donnant ce que nous avons préparé. Bénis ce service, alors que les paniers vont circuler, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.